Bonjour chers auditeurs, c'est l'émission Si vous voulez me prêter vos oreilles. Merci. Allez, à tout de suite pour parler de Jean d'Ormesson. Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit. Tu t'es donné beaucoup de mal, mon cher amour, pour aboutir à bien peu de choses. J'ai été enchantée d'apprendre que la lumière transportait du passé à la vitesse record de 300 000 km à la seconde, que cette vie que nous avons tant aimée nous venait des étoiles, que notre vieux soleil qui nous éclaire et nous chauffe était parvenu à peu près au milieu de son âge, et que capable de choses si grandes, si charmantes, si gaies, les hommes n'étaient pas là pour toujours. Tout ça me fait une belle jambe. Tout ça, franchement, m'est un peu égal. Ce que je voulais savoir, je ne le sais toujours pas. Ce qui va nous arriver, et à toi et à moi, dans quelques années à peine, ou peut-être même demain, quand le temps sera écoulé de notre passage sur cette terre, mais toujours aussi obscure. Je t'ai souvent entendu dire que tu souhaitais écrire des livres qui changent la vie des gens. Tu n'as pas changé grand-chose à la fragilité passagère et si affreusement menacée de mon amour pour toi. Jean d'Ormesson de l'Académie française est normalien et agrégé de philosophie. La plupart de ses livres ont été de grands succès, dont « C'est une chose étrange à la fin que le monde » Robert Laffont, 2010. Et aujourd'hui, chers auditeurs, je vais vous parler de, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'instant, « Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit ». Où le portable prend la place du chapelet. Je suis tombée dans ce monde en un temps où beaucoup de choses disparaissaient et où beaucoup d'autres apparaissaient. Il y a eu le jeudi noir de Wall Street, la dépression, les banques qui sautent, le chômage, l'inflation. Il y a eu le communisme, le fascisme, le national-socialisme. Il y a eu la guerre, le goulag, la Shoah, les Khmers rouges, le Rwanda. Il y a eu un progrès qui a semé en même temps l'enthousiasme et la crainte. Longtemps demain a ressemblé à hier. Et puis tout à coup, l'histoire a pris les morts aux dents. Qu'est-ce qui a tellement changé depuis Plessis et Vaudreuil, depuis mon enfance, depuis les débuts de l'autre siècle? La réponse ne fait pas de doute. Ce qui a changé, c'est la place de la science et de sa fille, la technique. La science et la technique ont pris le pas sur la nature, sur le pouvoir, sur la poésie, sur la philosophie et sur la religion. Voilà le cœur de l'affaire. Elles ont bouleversé notre vie. Ça commence avec la ronde des saisons et du jour et de la nuit, avec la terreur devant le soir qui tombe, devant la foudre et le tonnerre, devant les éclipses. Ça continue avec l'observation de la marche du soleil et de la lune, avec le refus de la magie, avec les balbutiements de la raison. Ça se poursuit avec d'énormes machineries, avec les sphères de cristal qui glissent les unes sur les autres dans le ciel, avec des anges mécaniciens, avec des systèmes de l'univers. Et puis, la gravitation, l'évolution, la relativité, l'expansion, le Big Bang là-haut, et ces milliards d'années, l'incertitude quantique tout en bas. Ça finit par des puces. Ce qui a changé, ce sont les puces. Elles règnent sur notre avenir. Très vite, l'immensité se contracte, s'apprivoise, devient mobile et nomade, et descend dans la rue, pénètre dans les foyers. Ouvrez les yeux, que voyez-vous? Des puces, des voitures partout, des avions dans le ciel, des portables aussi nombreux, ou plus que les êtres humains, des ordinateurs et la toile. Des mécanismes minuscules, des filaments, des pointes, d'épingles ont remplacé les mystères, les esprits cachés un peu partout et les dieux. Le pouvoir et l'argent s'installent sur Internet. Le portable entre nos mains prend la place du chapelet. Facebook est une communion sans Dieu, mêlée de confessions. L'univers sans bornes est tombé sous votre coupe. L'infiniment grand et son jumeau, l'infiniment petit, viennent manger dans votre main. Bientôt semés sous votre peau, les puces feront partie de votre corps. Vous serez votre propre robot. Un autre monde est déjà au travail. Tout ce que la science est capable de faire, elle le fera. Un rêve de puissance nous emporte. La physique mathématique et la biologie moléculaire sont la poésie d'aujourd'hui. Ce sont elles qui traduisent et qui façonnent le monde, et elles soulèvent chez les jeunes gens l'enthousiasme qui venait hier des poètes. Ou l'auteur célèbre Barthes Bly, qui préférait ne rien faire. Tout était remis en question. Le nationalisme, le communisme, le capitalisme, la religion, la révolution, la presse écrite, le livre et le roman, et beaucoup d'autres trucs de ce genre qui avaient connu de beaux jours, s'interrogeaient sur leur avenir. J'aurais voulu faire de grandes choses, conquérir des terres nouvelles, sauver le pays, être un saint, écrire un livre inoubliable qui serait encore lu dans 100 ans par des jeunes gens exaltés, inscrire mon nom quelque part. J'avais le complexe de César, qui se désolait à 30 ans de n'être pas Alexandre. Je n'étais pas Alexandre, ni même César, ni Homère, ni Saint-Augustin, ni Saint-François d'Assise, ni Pouchkine, ni Mérimée. Pas même Feydeau ou Oscar Wilde. Je n'étais pas bon à grand-chose. Ce que je préférais, c'était ne rien faire. J'aimais beaucoup ne rien faire. Dans cette occupation suprême, j'étais presque excellent. Je ne m'ennuyais jamais, je rêvais. Non pas tant par paresse que par manque d'intérêt. Travailler ne m'intéressait pas. J'étais désintéressée. Le monde me plaisait, bien sûr. Il m'a toujours plu. Mais son mode d'emploi me manquait. Vivre me faisait horreur. Gagner ma vie me faisait honte. Tous les métiers m'ennuyaient. Surtout depuis que Marie, ma compagne, était sortie de ma vie. J'essayais le plus possible de me tenir à l'écart. La banque, les chiffres, le notariat, la diplomatie, l'intendance, les cabinets de ministres, le commerce de gros et de détail, l'industrie, les affaires en général, et publiques et privées, ne me disaient rien de bon. Je m'efforçais de les négliger. J'étais tombée par hasard sur une longue nouvelle d'Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, qui met en scène un personnage enchanteur du nom de Barthes Bly. À qui lui demande s'il peut faire telle ou telle chose, prendre telle ou telle initiative, s'attaquer à tel ou tel projet. Barthes Bly répond avec obstination qu'il préfère ne pas. Barthes Bly était devenu mon héros. Ce que je préférais, c'était m'abstenir. Je ne faisais rien, je lisais. Où apparaissent et font du bien Bossuet, Oscar Wilde, Aragon et plusieurs autres. J'aimais les histoires, j'aimais les paroles et les mots, j'aimais beaucoup les livres, ils me consolaient de mes chagrins. De plus en plus riche et puissant, après avoir échappé à plusieurs procès, bien plus sûr que de lui que jamais, Paul Carpeau au Vinteuil pérorait à la radio ou à la télévision sur la politique, sur l'économie, sur la société, sur tous les sujets inimaginables. On racontait qu'il s'était entiché de Tamara. Vous vous souvenez, la belle Somalienne devenue plus Plessis Vaudreuil que tous les Plessis Vaudreuil. Je ne savais plus rien de Marie. Je sombrais un peu dans les vertiges de là à quoi bon. Je lisais. Je lisais ce qui me tombait sous la main. Montaigne, Chateaubriand, Racine et Feydeau, Nerval. Sainte Napolitaine, aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de Sainte Gudule. As-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche tombée, vous insultez nos dieux. Tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle. Et Mérimée subtil et sec, je lissais Bossuet et Oscar Wilde. Oscar Wilde était très différent de Bossuet, mais je les aimais tous les deux. Oscar Wilde, parce que j'aurais voulu le connaître et qu'il écrivait « Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains de nous regardent les étoiles. » Bossuet, parce qu'il parlait comme personne de la seule chose qui me paraissait encore à peu près sûre et peut-être, au bout du compte, consolante après la disparition de mon grand-père et la fin de Plessis les Vaudreuil. C'est une étrange faiblesse de l'esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoiqu'elle se mette en vue de tous les côtés et en mille formes diverses. On n'entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement, de ce que ce mortel est mort. Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui a parlé et de quoi le défunt l'a entretenu. Et tout d'un coup, il est mort. Voilà, dit-on, ce que c'est que l'homme. Et celui qui le dit, c'est un homme. Et cet homme ne s'applique rien, oublieux de sa destinée. Ou s'il passe dans son esprit quelque désir volage de s'y préparer, il dissipe bientôt ses idées noires. Et je puis dire, messieurs, que les mortels n'ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d'enterrer les morts même. Je lisais aussi les vivants. Évidemment, aux deux extrêmes du spectre littéraire, Aragon et Morand. Et puis Nikos Kazantzakis, le grec, auteur d'Alexis Orba et du Christ ressuscité. Yachar Kemal, le turc, auteur du formidable Hintz Mehmed, Mehmed le Mince, Ivo Andric et le pont sur la Drina, Gabriel Garcia Marquez et le réalisme fantastique de ses 100 ans de solitude, un jeune péruvien très doué, Mario Vargas Llosa, en train d'écrire un chef-d'œuvre, La tante Julie et le Scribouillard, Michel Foucault, encore presque inconnu, et Julio Cortázar, Alejo Carpentier cubain, saisi par le surréalisme, auteur irrésistible du royaume de ce monde, du siècle des Lumières et du partage des eaux. Le fusil de chasse et le loup bleu, une biographie de Jean Giscan, du japonais Yasuki. Inouï, Inoue, l'époustouflant cavalier suédois de Léo Pérouse, le magnifique Frédéric II de Kantorowicz. Roger Caillois, trop oublié, qui parlait si bien des fêtes, des jeux, des pieuvres, du sacré et des pierres. Emmanuel Berne, qui se disputait avec Proust et partageait avec André Breton une jeune femme du nom de Suzanne. Un peu plus tard, Cioran. Chacun s'accroche comme il peut à sa mauvaise étoile. Ou les enfants que je n'ai pas eus ne savent pas tout ce qu'ils me doivent. Où j'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès. Et surtout, nouvel Oedipe, venu d'Argentine, déjà aveugle et hésitant dans sa démarche, bientôt guidé par la frêle silhouette noire de Maria Kodama, le grand George Louis Borges, dont l'histoire de l'éternité, l'Alep, le jardin au sentier qui bifurque, ou la loterie de Babylone, me rendaient à peu près fou. Je les lisais le cœur battant, effondré dans mon coin, avec un mélange d'émerveillement et de douleur. Ils étaient ce que je serais jamais, des géants, des écrivains. Dans l'ironie et dans la violence, ils prenaient la suite de Dieu pour participer avec lui à la création de ce monde plein de passion et de mal. Et à force de drôlerie, de folie et de cruauté, ils chassaient la peine et l'ennui qui nous accablent tous. Les best-sellers, la mode, la littérature d'expérimentation, la blague du nouveau roman, les pompeux, les faiseurs, je les laissais de côté. Je leur préférais Labiche, Pagnol, Flair et Cavaillet, Toulet ou même Arsène Lupin, ou un Indien inconnu et très malin dont la poésie et les tours de prestigitation me remplissaient d'admiration. Tout nouveau venu qui pénétrait chez lui voyait aussitôt à sa stupeur sa cravate se dresser à l'horizontale. Et un Chinois que j'ai toujours vénéré. L'Indien a fini par faire fortune dans les fonds de pension et le Chinois était l'inventeur de proverbes et de dictons que je n'ai jamais oubliés. Mieux vaut allumer une petite lanterne que maudire les ténèbres. Ou il faut faire vite ce qui ne presse pas pour pouvoir faire lentement ce qui presse. Ou encore, à côté du noble art de faire les choses par les autres, il y a celui non moins noble de laisser se faire toute seule. Camus c'était bien, mais trop souvent un peu prêcheur. Sérieux comme Yourcenar, il était rarement amusant à la façon de Rabelais, de Montaigne, de Chateaubriand, de Hugo ou d'Aragon. Sartre disait « N'importe quoi avec beaucoup de culot et beaucoup de talent, que l'enfer c'était les autres, que De Gaulle était un dictateur, de très loin pire que Staline, et que l'URSS était sur le point de rattraper et de dépasser les États-Unis. » Le bruit courait que les premières pages de Lettres et le Néant avaient été assemblées en dépit du bon sens et qu'elles étaient incompréhensibles. La mode est si puissante qu'aucune réclamation ne fût enregistrée. Sartre, pendant des années, a régné en majesté. Il décrivait des garçons de café en train de jouer aux garçons de café. Il chantait le visqueux et le glauque. Il écrivait des romans qui avaient un succès énorme et qui n'étaient pas fameux. Et il dominait son époque en se trompant sur presque tout. Rien ne change. Où il est question d'amour, mais grâce à Dieu, très vite. Il n'y a qu'une règle en littérature, nous dit Jules Renard dans son irrésistible journal. C'est toujours trop long. Ce qu'il faut, c'est aller vite. Nous n'avons plus le temps. Interdit de traîner en route, interdit de fouiller dans des sentiments dont tout a été dit et qui n'ont plus grand-chose à nous apprendre. Interdit surtout d'écrire quoi que ce soit qui pourrait ressembler à une histoire d'amour. L'amour n'en peut plus d'avoir été mis à toutes les sauces poétiques et musicales, d'avoir été exploité par les savants, par les crooners et par les romanciers, de traîner au théâtre, au cinéma, à l'opéra, dans les journaux, à la télévision, dans les conversations. La boucle est bouclée, la place est déjà prise et l'affaire est classée. Vous ne ferez jamais aussi bien que l'Odyssée où Nausicaa, aux yeux d'Ulysse, ressemble à un jeune palmier, que Dante, pour qui l'amour fait tourner le soleil et les autres étoiles, que Pétrarque avec l'or, que Racine, à qui je vous envoie en cas de cœur brisé. J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimé. Ou je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait? Que Goethe qui va et vient aux côtés de Charlotte ou de Sulika à Sulika. Von Sulika sous Sulika, ist mein kommen und mein gehen. Que ce pauvre Musset qui a été si jeune avant de devenir vieux. Je me dis seulement à cette heure, en ce lieu, un jour je fus aimé, j'aimais, elle était belle. Ou que Proust, l'amour, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. Dans tout ce que j'ai pu faire ou écrire, il n'y a que l'amour qui compte. Mais il est devenu impossible d'en parler. Quand il s'agit d'amour aujourd'hui, il n'y a qu'un mot d'ordre. Silence. Le mieux, évidemment, serait encore et toujours de se taire. Si vous tenez à racoler des lecteurs, vous pouvez à la rigueur décrire encore le plaisir Brantôme avec ses vies des dames galantes. Théophile de Viau qui échappe de peu au bûcher, Diderot avec ses bijoux indiscrets, Crébillon dans le sofa ou dans les égarements de l'esprit et du cœur, Sade évidemment, Apollinaire avec les 100 000 verges, Pierre-Louis dans Trois fils de leur mère et dans son délicieux manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation, s'en tirent même assez bien. Je vous les recommande. L'amour, en tout cas, on finit par se demander si le seul emploi de ce mot est encore autorisé dans tout livre qui se respecte, doit être manié désormais avec une extrême réserve. Marie avait cessé d'aimer Pama. Elle n'était jamais sortie de ma vie. J'étais sortie de la sienne. Elle mit plus de temps que moi à revenir à nous. Où l'auteur prend en secret de sages résolutions. Je n'ai jamais quitté Marie, et par une chance inouïe, elle ne m'a jamais quitté non plus. Je lui dois presque tout, et d'abord de m'avoir réconcilié avec un monde dont son absence m'avait fait perdre l'usage. Je traînais sans elle dans l'incertitude et dans l'ennui. Je ne faisais rien, je n'attendais plus grand-chose, je perdais ma vie. J'errais sans but, elle m'a rendu l'eau, les arbres, la lumière, la gaieté, l'espérance. Je m'étais donné à elle, elle m'a rendu à moi-même. Elle m'a fait honte de ma paresse. Je n'étais déjà plus tout jeune en ce temps, l'adolescence était passée, je n'étais pas encore vieux. Par la géographie et l'histoire, par le hasard, par les lois, j'avais beaucoup d'avantages, j'avais beaucoup de privilèges. Je n'avais pas faim, je ne mourais pas de soif dans un désert, je n'avais pas trop chaud dans nos climats tempérés, je ne souffrais pas de froid. Un toit m'était assuré, j'avais de quoi m'habiller à peu près décemment, et je ne faisais presque rien. « Puisque tu n'es bon à rien, me disait-elle, tu devrais écrire quelque chose. Tu aimes lire, Tu me parles souvent des écrivains qui t'ont plu. Il t'arrive même d'en parler plutôt bien. Fais donc comme eux. Écris. Écrire ? M'écrire quoi ? Les livres étaient à mes yeux comme des objets sacrés. Je les mettais très haut. D'où venaient-ils ? Leur surgissement me paraissait mystérieux. L'idée de commencer un livre m'épouvantait. Pour dire quoi ? J'aimais beaucoup de bons livres, mais je n'ignorais pas beaucoup aujourd'hui, surtout où ils devenaient si nombreux, beaucoup. La plupart, presque tous, étaient franchement mauvais. Écrire un mauvais livre qui tomberait des mains de ses lectrices et dont le premier lecteur venu aurait le droit de se moquer me déchirait le cœur. Je préférais me taire. Je choisissais la voie la plus sûre, je prenais le parti de ne rien faire. Alors, me disait Marie. J'hésite, lui disais-je. Je n'hésitais pas du tout, j'étais décidée à continuer d'en faire le moins possible et à poursuivre une vie où il ne se passait jamais rien. J'aimais beaucoup ces journées vides, où les heures toujours en train de couler se gardaient bien, de s'encombrer de ces choses inutiles qui relèvent de l'action ou de la passion et qui s'emparent de nous. Je dormais beaucoup, j'oubliais, je passais le temps qui passe. Où l'auteur part avec Marie pour Luc et pour Otrante. Ce que nous aimions peut-être le plus, Marie et moi, c'était de partir. Il y a des gens qui rêvent d'arriver. Nous rêvions de partir. Nous partions pour un oui ou pour un non, et souvent pour l'Italie. Il nous arrivait de partir pour la Grèce, pour la Turquie, pour l'Égypte, pour le Maroc. Il nous est même arrivé de partir pour l'Inde ou pour le Mexique. Le monde nous appartenait le plus souvent dès que nous avions 3 ou 4 jours devant nous. Ou parfois seulement 2, nous partions pour l'Italie qui était à notre porte. J'ai beaucoup aimé l'Italie. Ses livres, bien sûr, ses films, ses peintres, ses architectes, ses collines, ses oliviers. Mais aussi ses bourgades endormies sans trottoir, ses derniers chemins de terre, ses artisans, ses épiceries, ses bedeaux, ses faire-part de décès affichés sur les murs. Mon Dieu! Comme j'ai été heureux en Italie avec Marie. Nous arrivions, c'était le bonheur, une habitude presque une routine et une surprise toujours nouvelle. Luc, ses places, ses églises, ses villas et le souvenir d'Elisa, Bergame, si haut perché, Vérone, ses herbes, ses arches, ses portes de bronze et sa princesse de Trébizonde, Monte Pulciano avec en contrebas l'église du vieux San Gallo, Pienza avec sa Via dell'Amor et sa Via del Bacci, Spolette, Positano, Lecce. Tout nous était bon et merveille. Les ombres de Bonaparte, de Pie II, Piccolo Mini, de Frédéric II, de Jules II, de tant de génies, ayant toujours côtoyé les mercières, les patrons de bistrot, les chemisiers, les cordonniers qui avaient tant de talent. Nous découvrions de petites villes que nous avions le sentiment d'inventer. Ascoli Piceno, où rôde sur des places magnifiques et ignorées l'ombre d'un architecte injustement oublié. Cola del Amatrice, Pitigiano, Matina Francia, toute blanche et rococo, Ostiuni et sa cathédrale. Ostrante, au loin, tout au bout de la botte, dernier réduit byzantin, a résisté aux Lombards, puis aux Byzantins, avant d'être réduit en cendres par les Turcs de Mehmed II, où subsiste par miracle dans la cathédrale l'œuvre naïve du prêtre Pantaleone, un pavement du XIIe siècle où sur une des branches de l'arbre de la vie soutenu par 2 éléphants entre Adam et Ève, aux côtés des prophètes et de tout le bestiaire médiéval, brille Alexandre le Grand, enlevé au ciel par 2 griffons. Les vignes, les cyprès, les oliviers, les pins maritimes nous menaient de duomo en duomo et de palais en palais. Nous déjeunions dans les trattories, au pied des grands escaliers de pierre flanqués de leurs statues de marbre. L'envie nous prenait à table d'écrire un guide de l'Italie dont nous avions déjà le titre. Il s'appellerait « L'Italie comme on l'aime » et nous y parlerions des églises, des tableaux, des palais, mais aussi des boutiques, des freins et des mocassins, des coiffeurs, des antiquaires. De temps en temps, nous nous jetions dans la mer qui n'était jamais loin. Ah, jeunesse, jeunesse! Nous nous tenions par la main. Je la tenais dans mes bras et je lui disais assez bas. Ô mon jardin d'eau fraîche et d'ombre, ma danse d'être mon cœur sombre, mon ciel des étoiles sans nombre, ma barque au loin douce à ramer. Où entre imposture et grâce, l'auteur se transforme en machine à combiner les mots. Marie apparaît dans presque tous mes livres. Elle est à l'origine de la plupart d'entre eux. C'est elle qui m'a soufflé l'idée de m'intéresser aux six sœurs Milford, dont les destins, contrastés et réduits à quatre, car la réalité est trop forte pour la fiction, courent à travers le vent du soir et le bonheur à San Mignano. Nous étions ensemble à Venise quand ils ont surgi coup sur coup de nulle part les mots de l'histoire du juif errant et de la douane de mer. Elle est au cœur de Voyez comme on danse. Même ce que j'ai pu dire du monde autour de nous, de son origine, de Dieu, lui doit beaucoup. De tout ce que j'ai écrit, une large part lui revient. Écrire est très difficile, aussi difficile, j'imagine, que peindre, sculpter, faire de la musique, ajouter un peu de création minuscule à l'immense création. Tout le monde peut peindre, tout le monde peut sculpter, tout le monde peut faire de la musique, et tout le monde peut écrire. Mais pour tirer du néant un de ces objets bizarres qui ressemblent même de loin à une œuvre ou peut-être tout simplement à quelque chose, et qui puisse espérer durer plus d'une saison ou deux, il faut une espèce de miracle. À la question de savoir si le succès des autres le tourmentait, Jules Renard répondait oui, bien sûr, mais moins que s'il était mérité. Mérité ou non, ce n'est pas le succès des autres qui me tourmente, c'est le mien. J'écris une trentaine de livres. C'est beaucoup, c'est peu, je ne sais pas. Que valent-ils? Je ne sais pas. Nous vivons au temps de l'imposture, entretenue par les médias, par la presse, par la télévision, par la radio, par Internet. L'imposture est partout, et celle des autres me crève les yeux. Parfois, je m'interroge. Ne serais-je pas, moi aussi, par hasard, le fruit de l'imposture? Écrire est une étrange combinaison d'allégresse et d'angoisse. J'ai connu l'allégresse et j'ai connu l'angoisse. La plus grande partie de ma vie, je l'ai passée à griffonner des pages et des pages que j'étais à mesure que je les noircissais. Le désespoir me prenait. Je m'endormais sur mon travail, je détestais ce que je faisais et je me détestais moi-même. Et puis tout à coup, je m'élevais au-dessus de ma bassesse. Une sorte de grâce m'habitait. Les mots m'arrivaient tout seuls. Ils coulaient de source. Il ne venait même pas de moi, il venait d'ailleurs, il me traversait, il se servait de moi pour se coucher sur le papier. Il sortait je ne sais d'où et il volait jusqu'à moi. Un grand bonheur m'envahissait. Il me payait de mes attentes et de mes découragements. J'avançais aussi lentement entre illumination et chagrin, transporté sur les sommets, effondré dans l'abîme, dormant sur mes échecs et sur mes découvertes, rêvant la nuit à des mots qui brillaient comme des éclairs et que j'avais du mal à retrouver le matin. Ma vie s'est peu à peu confondue avec les mots. J'étais devenue une machine à combiner des mots. Mon bonheur et mes chagrins ne dépendaient pas de ma santé, de l'argent, du temps qu'il faisait, de la marche du monde, de l'opinion que mes semblables pouvaient se faire de moi. Il dépendait des mots que j'étais capable d'inventer et de ranger dans un ordre dont j'ignorais les règles, mais dont je savais avec certitude, entre allégresse et angoisse, qu'ils étaient très loin d'être arbitraires et de relever du hasard. Ben c'est sur ces paroles de « Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit » que je vous souhaite un heureux samedi et une très bonne semaine à vous, chers auditeurs. Merci, c'était une émission animée par Jasmine et Stéphane à la technique. Merci à vous, à bientôt.